Voilà, enfin, en tous les cas, ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. Et je vous avais dit, la dernière fois qu'on est venu, vous vous souvenez, hein, de tout le... Vous n'avez pas perdu une parole de ce que je vous ai dit la dernière fois, bien sûr. Hein, voilà, vous connaissez par cœur, ce n'était qu'au mois d'avril. J'ai regardé la date, qu'au mois d'avril, donc vous vous souvenez de tout. Hein, vous n'êtes pas des auditeurs oublieux. Hein. Je vous avais dit que j'ai eu sur le cœur de me replonger dans l'évangile de Jean. Donc, je vais continuer ce matin sur cet évangile. Et on s'était arrêté sur ce verset ensemble de Jean au chapitre 1er. On s'était arrêté sur ce verset 14 qui nous disait « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Voilà avec quelle intensité l'apôtre Jean veut nous faire entrer et contempler cette gloire. Et dans tout son évangile, il y a vraiment des choses assez extraordinaires. Comment le Seigneur va se révéler petit à petit à ses apôtres. Petit à petit, ils vont rentrer dans la connaissance. Ça n'a pas été facile pour eux d'entrer dans la connaissance. On le voit tout au long des évangiles. Jean est un évangile particulier. Quand Jean écrit son évangile, Pierre est mort, Paul est mort. Il est le dernier des apôtres. Le temple a été détruit. Et Jean se retrouve seul. Il écrit son évangile longtemps après les autres, des années après les autres. Et son évangile est très très différent des trois autres évangiles dans son approche. Et quand Jean écrit son évangile, la situation a beaucoup changé depuis les années 70, la destruction du temple. Il y a eu toute cette diaspora où le peuple a été dispersé et l'Église n'est plus du tout concentrée en Judée, en Galilée. Elle est partie aussi jusqu'aux extrémités, elle a commencé, elle est partie au milieu des nations. Elle a quitté la Judée, la Samarie. L'Église est maintenant dans les régions païennes. Elle a subi aussi la persécution. Et Jean a un message destiné à tous. Aux Juifs, mais aux païens, aux Grecs. Et souvent, dans son enseignement, Jean se rapproche de l'enseignement de Paul. Et Paul a pu dire, les Grecs cherchent la sagesse et les Juifs demandent des miracles. Et Jean, dans son approche, va démontrer à tous ces peuplades que lui aussi découvre, lui, il est juif. Et il se trouve lui aussi en pays païen, en pays où la culture est grecque, où la culture est idolâtre. Et Jean va démontrer que la sagesse que cherchent les Grecs, en réalité que la vraie sagesse, elle ne va se trouver qu'en Jésus-Christ, qui est la sagesse de Dieu. Les miracles réclamés par les Juifs, Jean va démontrer que les miracles s'accomplissent uniquement par Jésus et Jésus seul. Contrairement à tous les diseurs de bonnes aventures et tous les prestidigitateurs qu'on rencontre dans les actes, qui impressionnent par leurs soi-disant miracles. Et Jean va essayer de démontrer que Jésus est seul à pouvoir apporter un miracle, une guérison qui libère vraiment l'être humain. Nous avons vu la dernière fois ensemble que Jean a structuré son évangile par rapport au tabernacle. Trois parties dans son évangile se distinguent. Chapitre, je le rappelle pour mémoire, du chapitre 1er au chapitre 12, c'est comme si c'était le tabernacle, le parvis du temple, où tout le monde avait accès à Jésus. Et du chapitre 13 au chapitre 17, Jésus est dans l'intimité avec ses disciples. Il va les enseigner, il va prendre du temps avec eux pour les enseigner. Et nous voyons que du chapitre 18 au chapitre 19, c'est le lieu saint où Jésus va être seul à affronter la croix, où il va être entouré de beaucoup de monde. Mais au milieu de cette foule, il est seul à affronter la croix. Mais quand il est sur cette première partie du parvis où tout le monde a accès à lui, Jean veut nous démontrer que le but de son évangile, c'est que vous puissiez croire que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. En croyant, vous ayez la vie éternelle. Et frères et sœurs, dans le parvis de ce monde, où tous peuvent avoir accès à Jésus-Christ au travers du message de l'Évangile. Tous, aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, c'est encore jour de grâce. C'est encore un jour où on peut rencontrer Jésus-Christ aujourd'hui, au travers du témoignage de l'Évangile. Et ce matin, avant de découvrir comment les apôtres ont perçu qui était Jésus-Christ, j'aimerais m'arrêter avec vous sur ce verset 18 du chapitre 1er, où Jean nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a fait connaître Dieu, qui a fait connaître le Père. Personne n'a jamais vu Dieu si à un moment donné, il n'y a pas une révélation du Fils unique qui va nous amener au Père. Dans les évangiles, dans les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, ils vont entrer dans leur évangile tout de suite dans la vie terrestre du Seigneur. Ils vont tout de suite arriver, certains vont donner une généalogie, et puis ils vont arriver tout de suite au baptême, dans vraiment la vie terrestre du Seigneur. Jean, lui, est complètement différent. Jean, tout de suite, d'emblée, dès le départ de son évangile, il va démarrer au commencement. Au commencement. Il ne va pas parler du baptême tout de suite, mais au commencement. Il va nous faire remonter tout de suite que Jésus-Christ vient du commencement. Il part du premier verset de la Genèse, au commencement. Jean nous projette tout de suite au-delà du terrestre. Tout de suite, au commencement, dans l'éternité du Fils. Au commencement était la parole. Au commencement était déjà le Fils. C'est-à-dire que, en ayant contact avec le Fils, nous sommes en contact avec un personnage qui n'est pas seulement du terrestre, mais c'est un personnage qui est de toute éternité. Voilà le témoignage d'emblée de Jean. Vous avez affaire à un personnage, en celui qui est la parole, qui nous vient de l'éternité. Et en étant de l'éternité, il est le seul qui peut nous parler de l'éternité. C'est le projet de Jean, nous parler du Fils unique qui vient du Père, qui vient de toute éternité. Et ce personnage-là, peu de personnes discernent qui est vraiment ce personnage. Qui est ce personnage qui nous vient de l'éternité? Et Jean nous fait ressortir dès le début que la véritable connaissance de Dieu n'est possible que par celui qui connaît toute chose depuis l'origine. Seul lui est capable de nous expliquer qui est Dieu parce que lui-même est de toute origine. Il est dès le commencement, il est de l'éternité, il nous vient de l'éternité et il est le seul habilité à nous parler de l'éternité et de celui qui est éternel. Jésus-Christ, quel est ce personnage? Il est venu nous révéler et nous faire connaître et faire connaître à toute l'humanité. Il dira « Nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Lui seul a vu le Père, et lui seul est habilité à nous le révéler. » Jésus-Christ, cet homme qui nous vient de l'éternité. Quand Jean nous dit « Au commencement était la parole », différentes versions nous disent « Au commencement était le Logos », »,« Au commencement était le Verbe », il y a différentes traductions qui sont très exactes. Les Grecs cherchent la sagesse. Ils cherchent à acquérir la sagesse au travers de toute leur philosophie, au travers de la raison. On voit Paul à Athènes qui les interpelle. « Oh, homme athénien, vous êtes en tout point très religieux. J'ai même trouvé un autel à un dieu inconnu. » Ils avaient peur d'en oublier un. Il fallait en mettre un comme ça, au cas où ils en avaient oublié un. Ils cherchent la sagesse. La pensée juive a un peu cette même notion. En étudiant la Torah, on va arriver à une connaissance, de Dieu. Les Juifs ont le Sinaï pour se représenter la révélation de Dieu. Avec des éclairs, mais cette montagne, on ne peut pas l'approcher. Même un animal ne peut pas l'approcher. Les Grecs, eux, ont l'Olympe et les dieux de l'Olympe. Mais Jean, lui, va tout bousculer. Il va tout bouleverser. Il va dire, le Logos était avec Dieu. Et ça, les Grecs et les Juifs, ils peuvent l'accepter. Ils peuvent l'accepter qu'il y a un Dieu tout-puissant. Pas de problème. Pas de problème. Au commencement était la parole, pas de problème. La parole était avec Dieu, oui, c'est la parole de Dieu. C'est le mont Sinaï, c'est les dieux de l'Olympe, pas de problème. Mais Jean là va mettre un pavé dans la mare. Et la parole, le Logos, il s'est fait chair et il a habité parmi nous. Folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs. Comment la divinité peut s'incarner, venir et dire « je suis Dieu ». Mais c'est impossible. Pour un juif, c'est impossible. Pour les Grecs, mais on ne peut pas avoir de contact avec la divinité. C'est impossible. Ils sont au ciel, ils sont les Grecs, les dieux grecs font ce qu'ils ont à faire, mais ils n'ont aucun contact avec l'être humain. Quand un juif s'imagine le Sinaï, on ne peut pas atteindre la divinité comme ça. Et Jean va nous dire, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Folie, scandale, scandale. Jean va rendre manifeste au travers de son évangile que Emmanuel, Dieu, le Logos, est avec nous. Il est connaissable, ce Dieu inatteignable. Il est connaissable. On peut avoir un contact avec lui au travers de ce personnage qui vient sur les routes de Galilée, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et que seul Jésus-Christ a vu le Père. Seul Jésus-Christ connaît le Père. Seul Jésus-Christ est capable de nous le révéler. Que lui-même, il dira, le Père et moi, nous sommes un. Que nous sommes parfaitement un. Et Jean, à ce moment-là, va essayer dans son évangile de mettre en lumière. Imaginez ce que c'est. Nous, on a du mal de se rendre compte ce que c'est pour un juif d'accepter ce message. On a du mal pour un grec, pour un païen, d'accepter ce message. N'avons pas eu du mal nous-mêmes à accepter ce message. S'il n'y a pas, à un moment donné, quelque chose qui vient de lui, une recherche de l'Esprit de Dieu qui cherche nos cœurs, et toujours la liberté de répondre ou pas à ce message et à cette douce voix de l'Esprit qui vient nous parler. Ah, Jean va mettre en lumière que toutes les oppositions que va rencontrer Jésus, concerne sa personne et concerne son identité. Qui est-il ? Qui est-il, ce personnage ? Et dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit « Considérez en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. » Il y a de quoi être découragé dans ce monde. Mais la parole nous dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. » Et quand je méditais cette parole, on parle toujours, et on fait bien d'en parler, on parle toujours des souffrances du Seigneur Jésus à Gethsémané. Qu'est-ce qu'il a dû affronter à Gethsémané? On va toujours parler des souffrances de Jésus à la croix. Qu'est-ce qu'il a souffert à la croix? Et entre Gethsémané et entre la croix, qu'est-ce qu'il a souffert de la part des Romains? Qu'est-ce qu'il a souffert? Mais on oublie tout ce qu'il a souffert avant. Et pardonnez-moi, je vais être ennuyeux. Je vais être ennuyeux, mais vous me pardonnez d'avance? Vous me pardonnez d'avance? Hein? Voilà, soyez bien remplis d'amour pour moi. Je vais être très ennuyeux. Je vais essayer d'être bref, mais on va considérer le quotidien du Seigneur dans ces 3 ans et demi qu'il a vécu dans son ministère. Chapitre 2 de l'Évangile de Jean. J'ai tout pris dans l'Évangile de Jean, mais on pourrait encore en rajouter. Jean fait des flashs comme ça. À la Pâque, la première Pâque que Jésus va vivre dans le Temple. Alors là, évidemment, il choisit pas la facilité. Il va renverser les tables. Évidemment. Ça va pas être simple, hein. Alors les Juifs se révoltent contre lui. Quel miracle nous montre-t-il pour agir de la sorte? Et au chapitre 4, hein, je vais essayer de passer rapidement. Jésus arrive en Galilée, il y a un officier du roi qui vient le voir, il y a mon fils qui est malade, fais quelque chose pour lui. Et Jésus est là parce qu'ils avaient appris tous les miracles, tous les prodiges qu'il avait fait à Jérusalem. Alors il est dans le coin, alors il faut vite aller le voir. Mon fils est malade, guéris-le, ça se comprend humainement. Et Jésus va leur dire, si vous voyez des miracles, si vous ne voyez pas de miracles, pas de prodiges, alors vous n'allez pas croire en moi. Vous n'allez pas croire, vous avez besoin de voir pour croire. Chapitre 5, à Jérusalem, il est à la porte des brebis. Il y a ce paralytique depuis 38 ans à la piscine de Bethsaïda. Et les Juifs lui disent, c'est le Shabbat, tu n'as pas le droit de guérir quelqu'un le jour de Shabbat. C'est Shabbat, mais tu te rends pas compte, qu'est-ce que tu fais? Un gars comme ça, ça peut pas venir de Dieu, c'est pas possible. Les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il avait fait ces choses le jour du Shabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le Shabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Scandale! Il arrive à la multiplication des pains. Et les gens qui ont vu le miracle le lendemain, ils ont appris qu'il était à un certain lieu. Alors, ils vont le voir. Et Jésus va leur dire, voilà, mais vous me cherchez. Non, parce que vous avez vu le miracle, mais vous avez été rassasiés. Et il va parler avec eux et tout ce qu'il aura en réponse. Mais quel miracle nous montres-tu encore pour que nous puissions croire en toi? Quel miracle nous montres-tu? Ouais. Que vas-tu faire? Chapitre 6, les Juifs murmuraient parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Alors ils vont dire « Mais n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph? Nous connaissons le Père, nous connaissons la Mère. Comment peut-il nous dire qu'il est descendu du ciel, qu'il est le pain qui descend du ciel? Comment il peut nous dire ça? Scandale !» Jésus dira, chapitre 6, verset 46, Jésus va dire « Nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. » Oh, les Juifs discutèrent entre eux. « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Oh, à ce moment-là, même les disciples se sont détournés de lui, sont partis. Ses paroles sont trop dures à entendre. Qui peut les entendre ? Lâché même par ses disciples. Jésus en Galilée, il restait en Galilée parce qu'en Judée, les Juifs voulaient l'arrêter pour le tuer, car les Juifs cherchaient à le faire mourir. À la fête des Tabernacles qui était proche, ses frères qui ne croyaient pas en lui, sa propre famille ne croyait pas en lui. Il y avait des rumeurs parmi la foule. Jésus était montré en secret. Les uns disaient « c'est un homme de bien », d'autres disaient « il égare la multitude ». Les Juifs s'étonnaient « comment peut-il connaître les Écritures, lui qui n'a pas étudié ? Il n'est pas venu dans une école rabbinique ? Comment il les connaît ces Écritures ?» Jésus leur dira « pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ?» La foule répondit « tu as un démon. Qui cherche à te faire mourir ?» Les habitants de Jérusalem, ils cherchaient à le faire mourir. Ah, ils cherchaient à se saisir de lui. Les principaux sacrificateurs, les pharisiens, envoyèrent des huissiers pour le saisir. Dans la foule, certains disaient « c'est un prophète, c'est le Christ ». D'autres disaient « est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Les pharisiens vont s'adresser à Nicodème qui essaie de défendre un peu Jésus. Et ils vont lui dire « mais Nicodème, examine, tu verras que de la Galilée, il ne sort aucun prophète. » Les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et lui disent « et toi, que dis-tu ?» Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Constamment. Les Juifs raisonnèrent entre eux et disaient « tu es un Samaritain, tu as un démon ». Jésus leur dit « je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. » Vous m'outragez. Et ils vont lui dire « mais nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis « si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort ?» « Qui prétends-tu être ?» Et Jésus dit, « je le dis, je vous le dis depuis le commencement qui je suis. » Ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha. Il guérit un aveugle de naissance, mais ils ne croyaient pas que cet homme avait été aveugle. Les Juifs ne crurent pas qu'il était aveugle. « Nous savons que Dieu parle à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Et il vient de l'éternité. Ils vont dire, il est fou, ne l'écoutez pas, il a un démon, etc., etc., etc. Je vous fais grâce, j'ai lu un texte dans Luc aussi. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Constamment. Voilà quel était le quotidien. Le quotidien. Je vous ai bien ennuyé là. Hein ? Pardonnez-moi. Mais pour construire, considérons celui qui a eu une telle opposition contre sa personne de la part des pécheurs. Considérons, frères et sœurs, il n'y a pas eu que Gethsémané. Il n'y a pas eu qu'entre Gethsémané et Golgotha, il n'y a pas eu que Golgotha. Chaque jour, il était confronté à la contestation, à l'opposition, traité de fou, traité de démoniaque. Voilà quel était le quotidien de notre Seigneur Jésus. Il voulait faire mourir le Seigneur. Pour eux, impossible d'être ce qu'il était. Qui disait qu'il était impossible. Qu'il soit un prophète, d'accord. Mais ne me dites pas qu'il est le Fils de Dieu. Ne me dites pas qu'il est le Fils de Dieu. Un avec le Père, blasphème. Il doit mourir. Il doit mourir. Qui est-il ? En vérité, qui est-il ? Aujourd'hui encore, frères et sœurs, il est contesté. il est contesté et il le sera encore contesté. Aujourd'hui, que Jésus soit un prophète, d'accord, pourquoi pas. Qu'il soit un ange, pourquoi pas. Qu'il soit le plus grand des communistes, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais pas le Fils de Dieu. On n'en veut pas. Même les religions aujourd'hui n'en veulent pas un Fils de Dieu. Il est contesté. Frères et sœurs, l'identité de Jésus-Christ a contre lui une attaque directe des puissances des ténèbres. Nous sommes en face, frères et sœurs, de puissances de ténèbres qui contesteront le Fils de Dieu. C'est tout l'enjeu, frères et sœurs, de notre évangile. Qui est Jésus ? Qui est-il ? Pourquoi y a-t-il une telle opposition, une telle oppression ? Jean chapitre 3, verset 36, il nous est dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeurera sur lui. » Vous comprenez pourquoi les puissances des ténèbres s'acharnent à ce qu'on ne voit pas en ce personnage, le Fils de Dieu. Parce que celui qui croit en lui est sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera dans les ténèbres. Il n'aura pas la vie et la colère de Dieu demeure sur lui. Et aujourd'hui, la colère de Dieu demeure sur ce monde qui blasphème. C'est tout l'enjeu de notre évangile, frères et sœurs. C'est tout l'enjeu du partage de l'évangile. Nous n'avons pas affaire à quelque chose de simple. Quand on nous dit aujourd'hui dans les rapports de Porte Ouverte qu'il y a 365 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde, et quand on a lu la dernière lettre de Porte Ouverte avec ces 5 femmes en Inde qui résistent et cette centaine de femmes au Niger qui sont dans des grandes difficultés, on voit toute l'opposition pour que le message de l'Évangile soit arrêté, soit blasphémé. Frères et sœurs, j'aimerais venir avec vous dans le chapitre 12 de l'Évangile de Jean. Au chapitre 20, il nous est dit « Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, c'était des Grecs qui s'étaient convertis au judaïsme, ils se sont adressés à Philippe de Bethsaïda en Galilée, et lui dire avec insistance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André à Philippe, et ils le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure ? Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Quelques Grecs sont venus à Jérusalem pour adorer. Il y a une bonne démarche. Nous voulons voir Jésus. C'est intéressant de voir ce personnage. Ils avaient entendu parler de lui. Ils étaient à la fête. Il y avait la fête de Pâques. On estime qu'il y avait au moins 3 millions de personnes à Jérusalem. Que le Mont des Oliviers était transformé en un grand camping. Il n'y avait pas assez d'hôtels. Qu'est-ce qu'on entendait dire dans les rues de Jérusalem ? C'est qu'à 3 kilomètres de là, à Béthanie, quelqu'un était ressuscité. C'était le message qu'il y a dans toutes les rues de Jérusalem. Il y a ce personnage qui fait des miracles incroyables. C'est intéressant de voir un personnage comme ça qui fait des miracles. Alors on court après des miracles. Je veux voir Jésus. Je veux voir ce Jésus qui fait des miracles. Ah, ça doit être passionnant. C'est un prestidigitateur. Comment il fait ? D'où lui vient cette puissance ? C'est ce que les Juifs s'acharnaient à comprendre. D'où lui vient cette puissance ? Alors, c'est intéressant. Alors, on veut le voir. Alors, on approche les disciples et puis on espère le voir. Nous voulons voir Jésus. Mais on voit que Jésus a une drôle de réponse. Il ne répond pas du tout, d'ailleurs. Il va commencer par dire « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Si le grain de blé, il se prend pour un grain de blé, qu'est-ce qui se cache derrière ces paroles étranges ? Si le grain tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte du fruit. » On veut voir Jésus. On veut voir l'homme qui fait des miracles. C'est toujours le cas aujourd'hui. On court après les miracles. Eh bien, ça peut se comprendre humainement quand on souffre. Mais Jésus, il parle de sa mort. Alors, on veut voir ce gars qui fait des miracles, puis il nous parle de sa mort. C'est moins intéressant. C'est moins intéressant. Il parle de gloire s'il meurt. Et il fait comme s'il était déjà mort, qu'il allait revenir à la vie et qu'il serait glorifié. Et puis, cet homme qui a l'air sensationnel, extraordinaire, il va dire « Mon âme est troublée ». Pourquoi son âme est troublée ? S'il fait plein de miracles, ça devrait être extraordinaire, tout le temps, tous les jours. Et son âme est troublée. Jésus a déjà dans son cœur, dans sa tête, toute la croix qui se profile. « Mon âme est troublée ». Et puis, au verset 25, il dit « Celui qui aime sa vie la perdra ». Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Pas intéressant de perdre sa vie, non, on veut vivre. On veut vivre. Ce qui trouble chez ce personnage, c'est la décision à laquelle nous appelle cet homme. Cette décision à laquelle il nous appelle, ça concerne notre propre vie et notre propre mort. Si tu me suis, tu vivras. Si tu ne me suis pas, mais il faut que tu perdes ta vie pour me suivre. Ce n'est pas intéressant, un personnage comme ça. Voilà, frères et sœurs, devant quoi nous sommes avec ces Grecs venus à Jérusalem. Est-ce qu'on est prêt à suivre un tel personnage ? Perdre sa vie pour le suivre. Comme des millions de frères et sœurs dans le monde qui perdent leur vie pour le suivre. Ils perdent tout pour le suivre. Ou est-ce qu'on veut que le Jésus des miracles ? Et puis, au verset 36, il nous est dit « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux, malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Et là, on n'est pas obligé de voir comme moi, mais là j'y vois toute la tristesse de Jésus. Toute la tristesse de Jésus. Il se cacha loin d'eux, malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. La tristesse de Jésus. Vous venez à moi parce que vous avez été rassasiés. Si je ne fais pas de miracles, alors vous n'allez pas croire en moi. Mes miracles, ça vous intéresse. Mais moi, est-ce que vous cherchez à me connaître, moi ? Est-ce que vous cherchez à connaître mon cœur, mon âme ? Est-ce que moi, je vous intéresse ? Est-ce que je vous intéresse ? Ou ce n'est uniquement pour mes miracles ? Ou c'est simplement pour ce que je peux vous apporter ? Le découvrir, frères et sœurs, le découvrir. Si Jésus est vraiment ce qu'il dit être, alors ça sera dur à le suivre, c'est vrai. Mais que de belles choses il va nous donner. Et si on commence à connaître son cœur, alors oui, des miracles, on en verra, parce qu'il est toujours le même. Oui, on en verra. Des prodiges, ce n'est pas un problème pour lui. Des miracles, ce n'est pas un problème pour lui. Mais ce qui lui importe, c'est ce que tu veux me connaître, moi. Est-ce que tu veux marcher sur le chemin que j'ai prévu pour toi ? Et oui, ça sera dur. Oui, il y aura des cailloux. Oui, il y aura des embûches. Regarde mon quotidien. Regarde mon quotidien. C'est pour ça que l'Épître dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que tu ne te lasses pas l'âme découragée quand ça sera difficile pour toi. Parce que regarde mon quotidien, de quoi il était fait. Alors je peux te comprendre quand tu passes par des moments difficiles, parce que je suis passé par ces moments difficiles. Mais je te soutiendrai sur ce chemin, parce que le Père m'a soutenu. Le Père m'a glorifié et me glorifiera encore. Et le Père te glorifiera parce que tu honoreras encore son nom, même sur ton chemin difficile. Alors, c'est pour ça que Jean nous dit que mon âme est troublée et ton âme peut être troublée. Mais il nous a dit, ne perds pas courage, ne va pas à l'âme découragée. Regarde comme ton Seigneur, c'était le lot de son quotidien, l'opposition, traité de fou, traité de démoniaque. Te décourage pas, il comprend. Il comprend. Mais il te dit, cherche à me connaître, moi. Connais mon cœur. Connais mon cœur. Cours pas après les miracles. Cours pas. Mais quand j'estimerai qu'il en faudra un, je le ferai. Parce que tu me connaîtras. Tu connaîtras mon cœur. Tu me demanderas parce que tu seras dans ma volonté. Et il y aura des prodiges, il y aura des miracles. T'inquiète pas. Mais dans ce monde, ce qui va t'aider à tenir le coup, c'est pas le miracle. Ils en ont vu. Ils en ont vu. Il n'a pas été avare de miracles. Mais ils ne l'ont pas suivi. Ils ne l'ont pas suivi. Mais ce qui nous aidera à tenir dans aujourd'hui et les jours qui viennent et dans les temps qui viennent, c'est connaître son cœur. C'est connaître son cœur. Frères et sœurs, s'il est vraiment celui qui dit être, alors on a le pardon de nos péchés. On a la vie éternelle, on a sa présence, on a son esprit, on a tout ça. C'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu d'abondance, c'est un Dieu d'abondance. Dans les quatre évangiles, frères et sœurs, il y a la même question de Jésus. Qui dites-vous que je suis? Qui dit-on que je suis? Alors tu es ci, tu es ça, tu es... D'accord, c'est bien, mais vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? Et on voit les disciples avaient bien du mal à savoir qui il était. Il va se révéler petit à petit. Et parfois j'ai l'impression que je le connais si peu. Je vous en parle, mais j'ai l'impression que je le sais. J'ai encore tant à découvrir qui est mon Seigneur. Tant encore à découvrir de lui. Et vous, qui dites-vous que je suis? L'importance de ceux qui le connaissent, frères et sœurs. Regardez l'importance de ceux qui le connaissent. Éphésiens chapitre 3, verset 8, il nous a dit « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. » Afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Christ. Frères et sœurs, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Si les dominations et les puissances des ténèbres connaissent aujourd'hui par l'Église, les richesses incompréhensibles de Christ. Vous voyez l'importance que vous avez dans ce monde qui blasphème, où le Seigneur n'a pas encore fermé la porte de la grâce. Vous avez le message de l'Évangile. Voyez comment le Seigneur nous fait confiance pour proclamer devant les puissances des ténèbres les richesses incommensurables de Christ. Alors il faut déjà les connaître pour nous et les partager sur le parvis de ce monde, frères et sœurs. Qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est en train de faire par l'Église aujourd'hui, ce Seigneur? Regardez ce qu'il est en train de faire. Et je vais trafiquer la parole de Dieu. Ah, non, je ne vais pas la trafiquer. Connaître la sagesse de Dieu. Christ est la sagesse de Dieu. Alors comment je vais trafiquer la parole de Dieu? Chapitre 8 de Proverbes. Ils nous ont dit, la sagesse ne crie-t-elle pas? Alors, à la place de la sagesse, je vais dire, Jésus ne crie-t-il pas? L'intelligence, Jésus n'élève-t-il pas la voix au sommet des hauteurs, près de la route et à la croisée des chemins? C'est à la croisée des chemins qu'il se place, à côté des portes, à l'entrée des villes. C'est là que sont nos assemblées. Christ crie par l'Église aujourd'hui. À l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. « Homme, c'est à vous que je crie. » Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. « Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. » C'est ce que nous dit l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 26. « Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. » Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge et on en est servi de mensonge aujourd'hui. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Verset 12, « Moi, Jésus, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. » Verset 14, « Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. » Verset 18, « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont les richesses, la gloire, les biens durables, la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. » Voilà qui est Jésus-Christ. « Je marche dans le chemin de la justice. » Au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Je veux que mes brebis soient dans l'abondance et pour remplir leur trésor. L'Éternel m'a possédé au commencement de ses voies. C'est pour ça que j'en reviens au commencement. Verset 32, je passe sur plein de notions. Verset 32, « Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. » Ça, on le trouve dans Luc, dans Jean, ce passage-là. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Voilà ce que fait Jésus au travers de son Église aujourd'hui. Voilà qui il est. Il est ce Dieu d'abondance. Il est ce Dieu d'abondance. Si vous avez la folie de me réinviter, on verra comment les disciples ont découvert le Seigneur. Il est notre sagesse. Il est notre sagesse, la vie éternelle, dira Jésus quand il parle à son Père. C'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Et on peut dire, et nous, nous avons cru, et nous avons connu qu'il est le Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu. Oh, qu'on puisse se nourrir. Et Seigneur, nous avons vraiment envie d'entrer dans ce que Jean veut que nous contemplions de la gloire du Fils de Dieu. Que nous puissions vraiment... Que le Saint-Esprit nous aide à nous enrichir de sa présence, de sa grandeur, de sa beauté, et que nous puissions, dans un monde qui blasphème, où Dieu n'a pas encore fermé la porte de la grâce, pouvoir apporter l'évangile du Fils unique venu du Père. Amen. Seigneur, merci. Tu nous as fait la grâce, Seigneur, de percevoir ta personne. Seigneur, merci. De nous aider à encore lever le coin du voile pour que nous puissions encore te contempler davantage, pour que notre foi soit encore affermie en toi. Seigneur, c'est vrai que tu es capable de faire des miracles. Tu es capable de tout prodige. Tu es le maître. Tu viens de l'éternité. La création, c'est toi qui l'as créée. T'en connais les moindres secrets. Mais ce qu'il y a sur ton cœur, c'est que nous te connaissions, toi. Toi, que nous connaissions ton cœur et que nous puissions partager ton cœur. Et les miracles, tu t'en chargeras, Seigneur, parce que tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu sauras te glorifier d'une manière ou d'une autre. Mais Seigneur, aide-nous encore à partager et à découvrir ton cœur et à partager ton évangile de grâce. Amen.